Bonjour, mes frères. C'est un plaisir de vous voir. C'est encore un beau jour de sabbat. Il est toujours agréable de pouvoir se réunir avec le peuple de Dieu. En préparant ce message, j'ai pensé au moment où j'ai été appelé pour la première fois, au moment où j'ai été appelé. Je suis sûr que nous nous souvenons tous du moment où nous avons été appelés et de l'excitation que nous avons ressentie. Mais si je me souviens bien, je pense que la question qui m'a le plus marqué après mon baptême est la suivante: qu'est-ce que cela fait d'être Dieu? Car ce que je comprenais, c'est que lorsque l'on s'entraîne à être des dieux ou à ressembler à Dieu, qu'est-ce que cela fait? J'ai été baptisé, je suis sorti de l'eau, le Saint-Esprit de Dieu a été donné, mais je n'ai rien ressenti. Mais vous vous demandez, ce que, quand vous entendez, vous serez Dieu, qu'est-ce que vous ressentez? À quoi pensez-vous? Eh bien, je suis tombé sur Galates 5, et cela a commencé à m'expliquer. Passons à Galates 5. Galates 5, et nous lirons le verset 18. Le verset 18. Il y aura probablement quelques versets à partir du verset 18. Galates, chapitre 5. Encore une fois, nous nous souvenons tous de notre appel, et nous nous souvenons tous de la joie que nous avons ressentie, et nous avions probablement tous des questions différentes. Mais pour moi, c'était une question importante. Je voulais comprendre à quoi cela ressemblait. Et Galates 5, 18 dit: si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. En d'autres termes, ce sont les résultats de la simple nature dont nous sommes tous issus. Adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie. Et cela continue encore et encore. Et il se termine par, au verset 21, les jalousies, les meurtres, l'ivrognerie, les réjouissances. Et d'autres choses du même genre, et il y en a donc beaucoup. Mais il continue en énumérant environ 17 traits de caractère. Une fois dans le monde, nous savons que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de notre vie, nous avons probablement pratiqué ou eu certains de ces traits de caractère, nous étions dans la servitude, la somme de ces traits de caractère. Il poursuit en disant: je vous le dis avant. Je vous le dis avant que le royaume ne vienne, comme je vous l'ai dit autrefois, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. J'ai fait une pause. D'accord, c'est sérieux. Le but est le royaume de Dieu, et quiconque n'élimine pas cette nature pécheresse, ses pratiques, n'héritera pas du royaume de Dieu. Première étape. Au moins, je comprends qu'il y a quelque chose que je dois sortir, et qu'il y a quelque chose que je dois revêtir, mais la question se pose toujours: qu'est-ce que cela fait d'être Dieu? Eh bien, notre vocation a commencé par cette simple prise de conscience. C'est pourquoi je vais là-bas. Elle a commencé par cette simple prise de conscience que nous devions nous débarrasser du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Dieu nous a donc donné des dons, et vous pouvez le voir à travers son Saint-Esprit, pour nous permettre de nous libérer de cet esclavage, et donc de réaliser ce dont le verset 22 commence à parler. Il poursuit en énumérant les caractéristiques de Dieu, ce que nous sommes avec l'Esprit de Dieu. Les caractéristiques de Dieu, que nous avons maintenant, conduits par son Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner l'une de ces caractéristiques de Dieu, la longanimité. Nous allons nous pencher sur la longanimité. Comment pouvons-nous développer la longanimité de Dieu en nous? Comment pouvons-nous développer la longanimité, tout simplement? Eh bien, mes frères, commençons par définir ce qu'est la longanimité. Vous allez dans le dictionnaire Webster, et il le définit comme suit: patient, qui accepte les douleurs ou les difficultés avec calme ou sans se plaindre. Vous traversez donc des difficultés, mais vous ne vous plaignez pas. Une longue souffrance est une souffrance patiente, dit-on. Ne pas être colérique. Ainsi, une personne qui souffre longtemps est quelqu'un qui fait preuve de retenue au lieu de se mettre en colère. Elle a des raisons d'être en colère, mais elle fait preuve de retenue. C'est une personne qui n'est pas prompte à riposter. C'est ce que cela signifie simplement. Faire preuve de retenue lorsqu'on a une raison de réagir, que ce soit sous l'effet de la colère ou d'une autre chose, ou de porter un jugement, selon le cas. Mais la longanimité, parce qu'on peut parfois assimiler la longanimité à la persévérance, qui consiste à supporter des épreuves, à passer par des épreuves, mais la longanimité, c'est différent. La Bible ne se contente pas de montrer que Dieu est longanime. Elle nous dit aussi pourquoi. Passons à 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Elle ne se contente pas de nous dire que Dieu l'est et que nous avons ce même attribut ou que nous devrions l'avoir avec son esprit, mais elle nous dit pourquoi. Passons à 2 Pierre, chapitre 3 et au verset 9. Vous y êtes peut-être déjà. 2 Pierre, 3e et 9e verset. Le Seigneur ne manque pas à sa promesse. Quelle promesse? Contrairement à ce que certains considèrent comme de la lenteur, mais il fait preuve de patience à notre égard. Et c'est ici qu'il commence à nous dire pourquoi et cela devrait maintenant nous importer alors que nous commençons à examiner comment nous devrions développer la longanimité. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous. Et c'est tous. Nous dans cette pièce, tous dans le monde, son amour est envers tous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais tous, arrivent à la repentance. Un retournement, se détourner du mal. Dieu ne veut pas que quiconque, même ceux qu'il n'a pas appelés à sa vérité, périsse et il est prêt à souffrir, attendre longtemps, même s'ils vivent dans une nature pécheresse. Il observe chaque jour sa création et s'en aperçoit. Combien plus nous, qui avons reçu sa vérité et son esprit et qui pouvons développer ce caractère, combien plus nous, exerçant la longanimité afin que nous puissions traverser ce monde et entrer dans son royaume, c'est là son but. Nous avons été appelés, nous avons reçu, devrais-je dire un avantage, par l'Esprit de Dieu, pour commencer ce voyage vers le royaume. Par exemple, il est dit, Dieu a de la patience parce que c'est le but ultime qu'il veut pour le monde entier. Encore une fois, nous avons une longueur d'avance. Frères et sœurs, sommes-nous patients comme Dieu l'est? Nous pouvons penser à ce qui s'est passé lorsque Dieu nous a appelés. Avons-nous développé notre patience? Nous venons de voir que Dieu va jusqu'au bout pour faire entrer tout le monde. Et lorsque nous commencerons à regarder comment, nous verrons exactement comment il exerce et comment nous pouvons l'imiter afin de développer la longanimité, comme notre Père. Qui a déjà entendu l'expression « la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre » Je suis sûr que beaucoup d'entre nous l'ont entendu. Nous ne sommes pas tombés loin de la nature de Dieu, si je peux utiliser cette expression. Nous avons son ADN spirituel, si je puis m'exprimer ainsi, ce qui signifie que nous avons la capacité de ressembler à Dieu. Ainsi, la longanimité étant un trait de caractère de Dieu, nous pouvons la développer. Lorsque vous entendez la liste des 9 fruits, lorsque vous lisez Galates 5, la plupart des autres fruits ressemblent à des choses que nous embrassons volontiers. L'amour, qui ne veut pas d'amour, c'est le cas de tous. La joie, nous lèverions tous la main, et cela peut aller plus loin. La longanimité, non, c'est un peu différent, Parce que quand on entend le mot souffrance associé à long, on a tendance à reculer. C'est un peu différent, mais nous pouvons le développer. Nous avons l'ADN spirituel de Dieu, pour reprendre l'analogie. C'est possible. Et nous allons examiner à nouveau comment nous pouvons le faire. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons faire preuve de patience, car nous devons être conduits par son esprit, comme nous l'avons lu. Passons au chapitre 5 de l'épître aux Jacques. Jacques, chapitre 5. Retenons ce point sur la longanimité de Dieu et sur la raison pour laquelle il l'exprime. Il veut que tous parviennent à connaître sa voie et à entrer dans son royaume. Jacques 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, et il a une longue patience pour l'obtenir. Il est patient, joyeux, et il attend longtemps jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous faites pas de reproches les uns aux autres, frères, de peur que vous ne soyez condamnés. Voici que le juge se tient devant la porte. Nous vivons tous à une époque que nous pouvons accepter. Nous verrons bientôt le royaume de Dieu. Nous voulons être dans le royaume de Dieu, et l'une des choses essentielles que nous faisons chaque jour est de nous assurer que nous devenons plus semblables à Dieu. Nous nous exerçons à devenir plus semblables à Dieu, et il en va de même pour la longanimité. Il est dit à juste titre que Dieu est patient et qu'il attend longtemps les fruits de la terre. C'est son but, son objectif pour le monde entier. Un exemple puissant que nous devons imiter. Nous possédons cet ADN spirituel, je le répète, et nous attendons et souffrons également que la désobéissance de ce monde entre dans le royaume de Dieu car, avec la longue patience de Dieu et de son esprit, nous souffrons également dans ce monde. Nous attendons dans ce monde. Nous endurons des persécutions dans ce monde. Nous défendons la vérité dans ce monde, et cela demande de la patience dans un monde qui n'en a pas, qui ne la promeut pas, qui ne la défend pas, qui n'endure pas la moindre persécution, qui n'attend pas Dieu. Nous vivons dans ce monde, mais cette saison nous rappelle que c'est exactement ce que Christ nous a montré. C'était son exemple, et c'est une merveilleuse occasion pour nous de nous rappeler que quelqu'un nous a donné cet exemple à suivre, et qu'il a réussi. Passons à Romains 3. Romains 3 et le verset 24. Christ lui-même a souffert de cette accusation. Le verset 24 de Romains 3 se lit comme suit, « Ayant été justifié gratuitement par sa grâce, grâce à la rédemption qui est dans Christ Jésus, que Dieu a envoyé pour servir de victime propitiatoire par la foi en son sang, il est mort afin que nous ayons accès auprès de Dieu pour déclarer sa justice, en vue de la rémission des péchés qui sont passés par. » Quoi ? La longanimité de Dieu, la patience de Dieu. Dieu est maintenant, avec Christ qui est venu, montré à ceux qui choisissent de suivre Dieu maintenant, le chemin est tolérant, attendant que tout le monde entende cette vérité. Venir à Dieu par Christ, suivre ce mode de vie et entrer dans le royaume. C'est ce que Dieu veut. Combien plus importante est la longanimité? Comme le disent les Écritures, Dieu veut que nous soyons quoi? Des ambassadeurs du Christ, réconciliant le monde. Quel est le meilleur moyen d'y parvenir? En faisant preuve de patience, en montrant la lumière de Dieu. Et là encore, nous allons examiner deux ou trois façons de le faire. Hébreux 2. Hébreux 2 et verset 9. Examinons cela plus en détail. Hébreux 2 et verset 9. Jésus est notre guide, il sait que nous pouvons développer la patience, que nous pouvons traverser le monde en soutenant la vérité, en persévérant dans l'endurance, en attendant la fin. Christ nous guide à travers tout cela, et nous le voyons dans Hébreux 2, verset 9. Nous voyons Jésus, qui a été abaissé au-dessous des anges pour souffrir la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin que, par la grâce de Dieu, nous goûtions la mort pour tout homme. Lui, par la grâce de Dieu, devait goûter la mort pour tout homme. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, de rendre le capitaine de leur salut. Vous et moi, parfaits par les souffrances. Et nous pouvons nous pencher sur les enseignements du Christ, « Vous allez souffrir dans ce monde parce que je suis passé par là, et s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. » Il y a beaucoup d'enseignements que Christ a donnés à ses disciples et qui montrent que nous allons endurer la souffrance. Mais, encore une fois, le fait est que nous pouvons faire preuve de longanimité à travers elle, et nous allons voir comment. Le verset 11 dit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés ne font qu'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Christ, une fois encore, ouvre la voie pour nous, ses frères, sachant que nous pouvons surmonter cela. C'est donc la charge que Dieu nous donne, Colossiens 3. Colossiens 3 et le verset 8. C'est la mission que Dieu nous confie clairement. Nous avons l'Esprit de Dieu, un don gratuit, qui nous permet d'être arrachés à l'esclavage dans lequel nous avons tous vécu. Et nous pouvons maintenant être des dieux en exerçant son esprit, la longanimité étant un élément clé pour traverser ce monde. Colossiens 3, verset 8, et maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à l'emportement, à la malice, au blasphème, aux propos orduriers, et ne vous mentez pas les uns aux autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et que vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. Là où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision. Peu importe d'où nous venons. L'Esprit de Dieu que nous avons revêtu nous aidera à construire le caractère de Dieu, y compris la longanimité. Verset 12. Revêtez donc, comme des élus de Dieu. Une exhortation pour nous tous, dans le monde entier, à la manière de Dieu, revêtez des entrailles saintes et bien-aimées de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Pensez à tous les fruits de l'Esprit. Dieu nous dit de nous en revêtir. Nous pouvons revêtir la longanimité. Pensez-y comme si vous vous habillez. Vous sortez, et quelqu'un peut vous regarder et dire, « Oh, il est bien habillé. » Et cela peut déboucher sur beaucoup de choses. Les gens sont prêts à faire des affaires avec vous. Ils sont prêts à communiquer avec vous, à s'asseoir et à prendre un café avec vous. En fait, c'est votre apparence qui attire les gens vers vous. Et Dieu dit de revêtir la longanimité comme un vêtement. Portez-la. Laissez les gens la voir. Encore une fois, cela devient très important étant donné que nous devons, ou que nous sommes comme Dieu, nous entraîner à être comme Dieu afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Notre objectif aujourd'hui est de savoir comment développer la longanimité. Comment pouvons-nous développer cette longanimité, un trait clé de la personnalité de Dieu? Comment pouvons-nous la développer? Dieu est longanime. Comment pouvons-nous développer cela et nous assurer que nous pouvons surmonter tous les obstacles dans ce monde et entrer dans le royaume de Dieu? Commençons par le tout premier. Le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Je suis désolé, 1 Corinthiens 13. Allons à 1 Corinthiens 13. Commençons à examiner comment nous pouvons développer la longanimité en tant que peuple de Dieu. Et vous allez voir un modèle au fur et à mesure que nous passons en revue certains de ces points. Vous allez voir un modèle se développer. 1 Corinthiens 13. Et nous commencerons à lire à partir de. Je pense que je vais commencer par le verset 4. Voyons voir. 1 Corinthiens 13. Je lirai le verset 4. La charité souffre longtemps. Donc l'amour souffre longtemps. En d'autres termes, Dieu souffre longtemps, comme nous l'avons lu, il est bon. Il est bon. Et il poursuit en disant, la charité n'est pas envieuse, elle ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Et dans chacun de ces cas, vous pouvez mettre Dieu à la place de la charité. Ce n'est pas ce qu'il fait. Mais il commence par dire qu'il est longanime, comme nous l'avons appris, et qu'il est bon. La longanimité et la bonté vont de pair. L'une des façons de montrer la longanimité de Dieu est donc de faire preuve de gentillesse lorsque nous subissons des reproches. Faire preuve de gentillesse lorsque nous subissons des reproches. Comme nous l'avons tous appris, je suis sûr que nous avons tous été appelés à différents moments de notre vie. Certains sont nés dans l'Église, d'autres y sont probablement entrés très jeunes, et d'autres encore un peu plus tard, lorsqu'il était un peu plus âgé. Et même, pour certains, bien plus tard, lorsqu'ils ont pris leur retraite, mais Dieu a attendu que chacun d'entre nous vienne à lui. Nous lisons toutes les œuvres de la chair qu'il a attendu que nous annulions après qu'il nous ait appelé à adopter ce mode de vie. Attendons-nous lorsque nous voyons les autres nous offenser? Attendons-nous d'être réprimandés? Et qu'est-ce que cela signifie? Pour avoir mis en pratique les vérités de Dieu, pour avoir défendu notre religion, pour avoir défendu notre mode de vie. Ainsi, vous célébrez le sabbat et vous décidez de ne pas accepter certains types d'emplois, et votre famille pense que c'est probablement la chose la plus insensée que vous puissiez jamais faire. Tu as reçu une bonne offre de travail, mais elle t'oblige à travailler le dimanche, et tu veux respecter le sabbat. Oh, c'est de la folie. Pourquoi faire cela? Eh bien, la vérité, c'est que Dieu, qui m'a appelé, m'a destiné à un but plus grand, qui est d'être un enfant, un fils de Dieu, et de montrer à toute l'humanité un meilleur mode de vie. Ce n'est peut-être pas assez aimable pour certains. Ce n'est peut-être pas une réponse assez aimable, mais êtes-vous prêt à subir les reproches, le rejet parce que vous pratiquez le mode de vie de Dieu et que vous le faites avec gentillesse? C'est difficile lorsque vous êtes contesté ou réprimandé sans aucune faute, simplement parce que vous pratiquez et défendez la vérité. Mais Dieu dit de faire tout ce qu'il faut pour s'assurer que l'on réagit avec bonté. Sans bonté, il nous est difficile d'endurer de longues souffrances ou même d'en faire preuve. La bonté doit nous guider chaque fois que nous sommes confrontés à une difficulté qui nous oblige à expliquer pourquoi nous pratiquons ce que nous pratiquons, parce qu'il est facile pour vous de repousser. Il est facile de dire, « Cela ne te regarde pas que je respecte le sabbat. Cela ne vous regarde pas que je ne mange pas de porc. Cela ne vous regarde pas que je donne une première, une deuxième et une troisième dîme. Oh, eh bien, c'est mon affaire parce que nous faisons partie de votre famille et que nous essayons de vous aider. Il faut alors chercher un moyen de s'assurer que l'on s'adresse à eux avec gentillesse et qu'ils comprennent ce que l'on essaie de leur dire. Ne pas être dur. Si nous voulons régner avec Dieu, régner avec Christ, nous devons apprendre à supporter le temps en faisant preuve de bonté les uns envers les autres et en faisant preuve de bonté même envers ceux qui ne connaissent pas ce mode de vie. Au lieu d'avoir des désaccords et des rancunes, nous voulons nous assurer que nous examinons chaque situation dans laquelle nous entrons et que nous pouvons atteindre chaque relation que nous avons, qu'il s'agisse d'une femme, d'un époux, d'un fils, d'un enfant. Nous devons nous assurer que nous pouvons les atteindre là où nous, là où ils sont, avec gentillesse. Ne pas les repousser. Ne pas les battre parce qu'ils ne croient pas en notre foi, ou parce qu'ils ne veulent pas suivre notre foi, ou parce qu'ils remettent notre foi en question. C'est plus facile de le faire parce que vous pensez que vous pratiquez la vérité et que vous la défendez. Je défends la vérité. Mais la gentillesse peut résoudre beaucoup de choses. Faire preuve de gentillesse signifie que nous ressentons parfois la douleur des autres et que nous comprenons pourquoi ils posent toutes ces questions, pourquoi ils ne veulent pas que nous payions la dîme, pourquoi vous voulez que nous soyons comme eux, pourquoi ils veulent que nous passions du temps avec eux. Il est normal de vouloir faire cela, et c'est, il faut être patient pour les rencontrer là où ils sont, pour voir que c'est là le problème, et pour savoir comment leur répondre avec gentillesse afin d'apaiser ses inquiétudes. Mais tout au long de ce processus, vous souffrez des reproches. Ce n'est pas facile. Vous subissez des critiques, vous subissez toutes sortes de choses. Il est même parfois facile d'abandonner et de suivre la foule, de nager avec les courants. Mais la gentillesse peut nous aider à vaincre ceux qui critiquent notre mode de vie et à nous assurer que nous pouvons surmonter les souffrances que nous devons endurer à ce moment-là. Là encore, il peut s'agir de notre famille, de nos amis ou même de notre lieu de travail. Quelle est une autre façon de faire? Comment pouvons-nous développer la longanimité? Allons au deuxième chapitre de Timothée. Nous pouvons montrer, nous pouvons développer la bonté, frères, en montrant de l'endurance dans les persécutions. En faisant preuve d'endurance dans les persécutions. Deuxième Timothée, chapitre 3. Je lis le verset 10. Mais tu as bien connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon but, ma foi. Cela est écrit à Timothée, et en fin de compte, il entend parler du chemin, du voyage qui a été fait. Il est question de mon but, de ma foi, de ma longanimité, de ma charité, de mon amour, c'est-à-dire de ma patience, des persécutions, des endroits où il s'est rendu et de ce qu'il a enduré. Et il dit, « Quelle persécution j'ai enduré, mais de toutes, le Seigneur m'a délivré. » Oui, et tous ceux qui vivront pieusement, ceux qui soutiendront la vérité que Dieu nous a donnée, jusqu'à la fin, souffriront des persécutions. Mais nous pouvons faire preuve d'endurance à travers les persécutions. Et à chaque étape du chemin, alors que nous endurons chaque persécution que nous rencontrons, nous devenons plus forts et nous sommes capables de passer à travers avec longanimité parce qu'il devient évident dans notre caractère que, quoi qu'il arrive, nous allons maintenir cette vérité. Et cela devient le moteur de l'endurance à travers la persécution. Vous subirez des persécutions, comme je l'ai dit, de la part de votre famille, mais en fin de compte, ce qui se passe, c'est que vous prenez la décision consciente d'endurer ces persécutions. Une endurance joyeuse, si l'on peut dire, qui permet de tenir bon. On vous repousse, je vais endurer parce que c'est la vérité. Vous recevez des plaintes, je vais endurer parce que c'est la vérité. Vous perdez un emploi parce que vous ne voulez pas travailler le jour du sabbat, je continuerai parce que c'est la vérité. Parce que je sais que Dieu ne m'abandonnera pas, je vais trouver un autre emploi. Jusqu'où cela doit-il aller? Jusqu'où la persécution doit-elle aller avant que nous n'abandonnions? Pouvons-nous abandonner? Allons à Acte 14. Pouvons-nous être persécutés et manquer d'endurance au point d'abandonner? Là encore, posez la question autrement. Y a-t-il une limite à la souffrance des poumons? Jusqu'où devons-nous montrer ou développer et montrer cette souffrance? Prenons un exemple. Prenons un exemple ici, et il est remarquable. Acte 14 et verset 19. Des Juifs d'Antioche et d'Iconium vinrent persuader le peuple, et, après avoir lapidé Paul, ils le firent sortir de la ville, croyant qu'il était mort. Cependant, comme les disciples l'entouraient, Il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabé et Derbe, pour Derbe. Lorsqu'ils furent parvenus, qu'ils eurent prêché l'évangile, dans la ville et qu'ils eurent enseigné beaucoup de gens, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, affermissant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et à entrer dans le royaume de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Ainsi, jusqu'à la mort, Paul disait qu'il fallait endurer des persécutions pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle souffrir longtemps. Il montrait que vous pouvez souffrir jusqu'à la mort parce que vous voulez maintenir cette vérité. Et avec cette motivation du royaume, nous ne manquerons jamais d'endurance. Et en faisant cela, nous montrons la longue souffrance de Dieu. Nous souffrirons longtemps pour le royaume parce que Dieu souffre longtemps pour que tous entrent dans le royaume, y compris nous. Le cadeau que nous avons reçu, c'est que nous avons la chance d'y entrer les premiers. Nous avons donc une longueur d'avance. Et en persévérant, en supportant toutes les persécutions que nous allons rencontrer, les gens peuvent voir la longanimité que nous portons, pour ainsi dire, même si cela signifie jusqu'à la mort. Comment pouvons-nous développer la longanimité de Dieu? Nous devons toujours craindre le Seigneur. Toujours. Et il y a une grande part d'obéissance dans tout cela. Passons au 8e chapitre de l'Ecclésiaste. Comment cela nous aide-t-il à développer la patience? En ayant toujours à l'esprit la crainte de Dieu. Ecclésiaste 8. Nous lirons le verset 10. Ecclésiaste 8, 10. Je vis les méchants enterrés, qui allaient et venaient du lieu saint, et qui étaient oubliés dans la ville où ils avaient agi de la sorte. C'est aussi une vanité, parce que la sentence contre une œuvre mauvaise n'est pas exécutée rapidement. C'est pourquoi le cœur des fils d'une multitude est tout disposé à faire le mal. Ainsi, parce que nous pouvons traverser la vie, et beaucoup le font, l'une des raisons pour lesquelles vous voyez de nombreuses personnes dire « Qui est ce Dieu que vous suivez tous ?» Depuis la création, nous avons entendu dire qu'il allait venir, mais nous ne l'avons pas vu. J'ai vécu ma vie et j'en ai profité, mais rien ne s'est passé. Pourquoi devrais-je suivre votre Dieu? Mais il est dit que vous allez penser qu'il n'y a pas de jugement tout au long de votre vie, mais le verset 12 dit quoi? Même si un pécheur fait le mal 100 fois et que ses jours se prolongent. Encore une fois, c'est ce que le monde penserait. Nous ne pensons pas cela, frère, mais je sais qu'il en sera de même pour ceux qui craignent Dieu, qui ont peur devant lui. Pourquoi est-ce important? Mais le malheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolonge pas ses jours, qui sont comme l'ombre. Peu importe donc la durée de votre vie. Peu importe la durée des siècles. Dieu dit, à un moment donné, j'agirai sans tenir compte de ma longanimité. Et pour nous qui avons reçu ce mode de vie, qui avons l'Esprit de Dieu et qui cherchons à développer la longanimité, que faisons-nous? Nous craignons Dieu et lui obéissons chaque jour de notre vie. Et tous les autres voient cela et disent, c'est de la folie. Qui voudrait vivre ce genre de vie? Mais c'est la vie de la vérité, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la joie, mais ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Nous sommes de Dieu et nous le voyons. Et ce que nous disons, c'est « Je craindrai Dieu », ce qui est étrange pour le monde. Mais en même temps, par cette crainte de Dieu, en soutenant sa vérité, nous savons que nous développons la patience parce que chaque jour qui passe dans ce monde qui ne connaît pas Dieu, et comme nous avons lu tous les passages, les Écritures, et vu comment nous ferons face aux persécutions et certainement comme Christ l'a fait, nous allons aussi passer par la même chose, nous devons aller vers la fin de notre vie, en nous assurant que nous soutenons les vérités de Dieu, ce qui est aussi craindre Dieu. Lui obéir. C'est la clé. Nous devons obéir à Dieu jusqu'au bout, et cela montre que nous avons de la patience, car ce n'est pas facile. Il est facile de capituler, de partir. C'est facile à faire. Ce n'est pas facile de pratiquer et de se convertir au mode de vie de Dieu, mais chaque jour que nous continuons à avancer, ce qui se passe, c'est que notre caractère s'améliore, se purifie, s'améliore, et nous marchons vers le royaume de Dieu. Nous développons la patience à chaque étape du chemin. Nous sommes frappés ici par notre famille, là par notre lieu de travail, mais nous continuons à aller de l'avant parce que nous craignons Dieu. Et la crainte de Dieu nous maintient sur la bonne voie et nous aide à nous assurer que nous maintenons ce que nous avons reçu. L'Esprit de Dieu, qui nous donne sa longanimité. C'est une chose joyeuse que nous avons tous et que nous devons tous chercher à promouvoir chaque jour de notre vie. Réveillez-vous tous les jours en vous demandant, « Ai-je fait mon étude biblique ?» Vous sortez de chez vous plein d'énergie si vous avez fait votre étude biblique, parce que vous en avez appris davantage sur la pensée de Dieu. Vous faites face aux défis qui se présentent au travail et à toutes les choses auxquelles vous pouvez être confronté au cours de la journée. Et vous avez une attitude optimiste pour y faire face. Je vais continuer. Je crains Dieu. Et vous atteindrez la ligne d'arrivée. Et grâce à ce processus, vous développez la patience. Encore une fois, ce n'est pas facile à faire. Il s'agit d'un autre domaine. Nous devons apprendre à faire preuve de miséricorde. Apprendre à faire preuve de miséricorde, et d'une autre manière, nous devons apprendre à être lents à la colère. Prenons une histoire. Jonas, chapitre 3. C'est une histoire fascinante. Je pense que la plupart d'entre nous s'en souviendraient de tête, mais elle est intéressante. Jonas montre une attitude soudaine et obtient une réponse simple. Voyons cela dans Jonas 3, en commençant par le verset 9. Jonas 3 et le verset 9, qui peut dire si Dieu se retournera, s'il se repentira, s'il reviendra de son ardente colère. Nous avons vu que lorsque Dieu est en colère, il ne faut pas se mettre en travers de son chemin. Vous ne voulez pas être le destinataire de sa colère. Alors qui de nouveau? Dieu fera-t-il ceci, et que nous ne périssions pas? Bien sûr que non. Nous le ferons. Dieu vit leurs œuvres. Au verset 10, qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait, et il ne le fit pas. Maintenant, Jonas 4, verset 1, nous passons au chapitre suivant, et Jonas. Cela déplut beaucoup à Jonas, et il fut très en colère. Jonas était donc en colère parce que Dieu a fait preuve de retenue. Les gens de Ninive ont commis ce crime, ils ne m'ont pas obéi. Dieu avait toutes les raisons de les frapper de son jugement, mais il a fait preuve de retenue. La réaction de Jonas a été d'être très en colère. Il pria le Seigneur, et dit. Verset 2 de Jonas 4. Je te prie, Seigneur, n'est-ce pas ce que j'ai dit? Ne t'ai-je pas dit cela avant de partir, quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je me suis enfui devant Tarsi, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et d'une grande bonté, et que tu nous repends du mal. Je savais que tu étais un Dieu lent. En fait, il demande à Dieu de s'expliquer sur ce qu'il est et sur le fait qu'il savait qu'il l'était. Que pensait Jonas? Il a dit, « Je l'ai dit, je ne veux pas faire tout ce chemin, et me voilà. Et je savais que tu n'allais pas exécuter le jugement même s'il t'avait désobéi. » Le verset 3 dit, « C'est pourquoi, maintenant, ô Dieu, ô Seigneur, retire-moi la vie, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Et voici la réponse de Dieu, au verset 4, Fais-tu bien de te mettre en colère? C'est la seule réponse qu'il a reçue. C'est la seule réponse qu'il a reçue. Fais-tu bien de te mettre en colère? Jonas, où est ta miséricorde? En d'autres termes, tu viens de dire que j'étais lent à la colère, et le Dieu de la création étant lent à la colère, on pourrait penser qu'il faut copier le Dieu de la création. Eh bien, Jonas a apporté sa propre attitude. Jonas se sortit de la ville. Et je pense qu'à ce stade, il est probablement déçu par lui-même, et s'assit à l'est de la ville, et là il se fit une cabane, et s'assit dessous à l'ombre jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qu'il adviendrait de la ville. Il attend donc. Apparemment, il n'a peut-être pas encore compris ce que Dieu disait, mais il commence probablement aussi à exercer sa patience à l'égard de Dieu. Le Seigneur Dieu prépara un colibacier et le fit monter au-dessus de Jonas, afin qu'il soit une ombre sur sa tête, pour le délivrer de son chagrin. Jonas, tu vas attendre longtemps. Faire preuve de miséricorde implique d'être lent à la colère parce que la miséricorde est vraiment quand le jugement est désiré, je suis désolé, et requis. Le jugement est nécessaire, mais vous faites preuve de retenue. C'est une qualité de la longanimité de Dieu, et nous pouvons aussi apprendre à être lent à la colère. Nombre 14. Passons à Nombre 14. Je vais peut-être sauter ce passage et passer à Éphésiens 4. Éphésiens 4 est le verset 1 pour terminer. Éphésiens 4, 1. Moi donc, le prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de votre vocation. Nous avons été appelés à ce mode de vie pour marcher avec Dieu. Cela doit rester notre objectif. Ce que nous voulons faire, c'est adopter tous les traits de caractère de Dieu, et surtout la longanimité, parce qu'elle nous aide à chaque étape à ressembler à Dieu et à vaincre cette terre, la nature pécheresse de cette terre. En conclusion, frères, quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu viendra sûrement à ceux qui, par leur longanimité, soutiennent la vérité, supportent les persécutions et attendent Dieu. Veillez à développer la patience.